Bonjour à tous et excellent réveil. Morgane Guiriec et Anna Thornton en votre compagnie en ce mardi 24 novembre 2015. À la une de notre émission.
Attentat de Bamako, le Mali en deuil national pour une seconde journée consécutive.
Concernant l'enquête, le procureur en charge du dossier affirme qu'il n'y avait que deux assaillants.
Bruxelles reste mardi en état d'alerte maximale après l'inculpation d'un quatrième suspect lié aux attentats de Paris.
Un objet qui s'apparente à une ceinture d'explosifs aurait été retrouvé dans une poubelle à Montrouge, près de Paris.
Crise au Burundi, le président Barack Obama a imposé des sanctions contre 4 personnes.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Nous ouvrons ce matin sur le Mali, le point sur l'attentat à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. L'enquête avance, assure le procureur Samaké, chargé de l'enquête. D'après lui, les assaillants ont bénéficié de complicité pour venir à l'hôtel, mais aussi pour commettre le forfait. Le procureur affirme également que les enquêteurs ont découvert une valise contenant des grenades leur appartenant. La télévision publique a diffusé des photos de 2 hommes noirs, apparemment morts, présentés comme les assaillants tués, avec un numéro d'appel pour des témoignages. Les enquêteurs maliens, appuyés par des experts français et de l'ONU, ont mené des perquisitions pour débusquer les complices de l'attaque avec prise d'otages qui a fait 22 victimes vendredi. Des spécialistes français en criminologie sont arrivés pour aider à l'identification des corps.
Concernant le nombre des assaillants, c'est la confusion. Les versions se contredisent. Le procureur est catégorique. Ils n'étaient qu'au nombre de 2. Ils sont morts. Pourtant, des clients de l'hôtel et l'un des groupes djihadistes qui a revendiqué l'attentat ont fait état d'un chiffre supérieur. L'attentat a été revendiqué par le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, Almira Bitoun, qui a laissé entendre dimanche que les 2 assaillants étaient maliens. Mais un autre groupe djihadiste du centre du Mali, le Front de Libération du Massina, a également revendiqué l'attentat. Le FLM dit avoir agi en collaboration avec Ansar Dine, groupe djihadiste de l'ex-chef rebelle Touareg malien Iyad Agali, par un commando de 5 membres, dont 3 sont sortis sains et saufs. Une source de l'AFP au sein du renseignement malien estime que les 2 assaillants tués n'étaient pas seuls. C'étaient bien des étrangers à la peau noire de nationalité indéterminée.
En attendant, le deuil national de 3 jours, débuté hier, se poursuit aujourd'hui. Par solidarité, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée, 3 pays voisins, ont également décidé d'observer un deuil jusqu'à mercredi. Après le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CDAO, son homologue béninois Thomas Yayi Boni lui a succédé lundi à Bamako, ainsi que le premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida, pour marquer leur soutien au Mali. À Bamako, la sécurité a été renforcée aux abords des grands hôtels, devant des mairies et des banques.
Le président Barack Obama a imposé des sanctions contre 4 Burundais pour leur rôle dans les troubles actuels dans le pays. L'ordonnance publiée hier par la Maison Blanche parle de restrictions de circulation et de gel des avoirs. Lionel Gaïma.
L'ordonnance du président Obama gèle tout avoir que les 4 pourraient avoir aux États-Unis et leur interdit l'accès du territoire américain. Sont concernés Alain Bougnoni, ministre de la Sécurité publique, Godefroy Bizimana, directeur adjoint de la police nationale, Godefroy Niyombare, ancien chef du renseignement, et Cyril Ndayirukiye, ex-ministre de la Défense. Les États-Unis accusent Bougnoni et Bizimana de mener des opérations pour intimider et réprimer les opposants au président Pierre Nkurunziza. Quant à Niyombare et Ndayirukiye, Washington leur reproche d'avoir contribué à l'instabilité au Burundi en tentant de renverser M. Nkurunziza en mai dernier. À noter que l'Union européenne et l'Union africaine ont déjà pris des sanctions contre les mêmes 4 Burundais. Dans une déclaration hier, le porte-parole du Conseil national de sécurité, Ned Price, a exhorté toutes les parties en présence au Burundi à rejeter la violence et à participer au dialogue sous la médiation internationale et à l'étranger pour sortir de la crise. Il a averti que les États-Unis pourraient prendre des sanctions contre toute personne qui bloque les efforts de paix ou a recours à la violence.
Appel à l'aide du Libéria aux États-Unis pour faire la lumière sur de nouveaux cas d'Ebola, confirmés la semaine dernière. Les précisions de Michel Joseph.
2 experts des centres américains de contrôle et de prévention des maladies s'apprêtent à se rendre au Libéria, a fait savoir le docteur Francis Cattay, aux responsables de la santé et chef intérimaire du programme libérien de gestion des cas de fièvre hémorragique. Leur mission, faire la lumière sur 3 nouveaux cas détectés plus de 2 mois après que le pays a été déclaré exempt d'Ebola. Le premier malade est un adolescent de 15 ans, habitant Monrovia, la capitale. Son père et son frère ont eux aussi testé positif au virus Ebola et ont été acheminés vers un centre de traitement, en même temps que sa mère et 2 autres enfants de la famille. Selon le ministre libérien de la Santé, que cite l'agence AP, plus de 150 personnes courent des risques du fait des nouveaux cas, y compris 10 d'agents de santé. Les nouveaux cas libériens ont été annoncés quelques jours après que la Guinée, point de départ de l'épidémie, a annoncé n'avoir plus de cas, entamant le compte à rebours de 42 jours avant d'être déclaré libre de l'Ebola.
Une cyberattaque contre le gouvernement angolais. Un groupe de pirates anonymes réclame la libération d'opposants inculpés dans une affaire de rébellion et de coup d'État. Le point avec Arzuma Compaoré.
Le gouvernement angolais a subi plusieurs jours durant une série de cyberattaques revendiquées par le groupe Anonymous Légion Portugal. Ces derniers réclament la libération de 17 jeunes opposants dont le procès a débuté la semaine dernière. Ils exigent aussi que tous les prisonniers politiques soient libérés et comparent le régime du président José Eduardo dos Santos à une dictature. Les pirates ont attaqué de nombreux sites institutionnels angolais, dont le site officiel du gouvernement qui a pu être remis sur pied lundi. Le procès des opposants angolais a lieu sous haute surveillance, avec la présence de forces de police qui limitent l'accès au tribunal. Chaque accusé est autorisé à avoir 2 proches maximum au cours des audiences. On ne sait toujours pas si le verdict sera rendu vendredi, comme annoncé au préalable. Depuis quelques mois, l'Angola a renforcé la répression des opposants, affirment certains observateurs internationaux. Ce pays, qui est le 2e producteur de pétrole d'Afrique, est particulièrement touché par la baisse de l'or noir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Entretien aujourd'hui à la Maison-Blanche entre le président Barack Obama et son homologue français, François Hollande. Des détails avec John Linden.
Les 2 leaders discuteront du renforcement de la coopération au sein de la coalition dirigée par les États-Unis qui mène depuis plus d'un an des raids aériens contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Avant de quitter Paris pour Washington, le président Hollande s'est entretenu lundi à l'Élysée avec le premier ministre britannique David Cameron. Ce dernier s'est engagé à étoffer la coopération avec les alliés du Royaume-Uni contre les terroristes. Nous faisons face à une menace commune et nous devons partager les informations et les renseignements afin de mieux nous protéger contre ces terroristes brutaux. Le Royaume-Uni et la France le font déjà, mais aujourd'hui nous avons convenu d'intensifier encore nos efforts et de travailler plus étroitement avec les voisins européens. David Cameron a indiqué qu'il demandera au Parlement britannique d'approuver l'expansion du rôle du Royaume-Uni en Syrie pour y inclure des raids aériens. Le président Hollande a fait savoir de son côté que l'armée française intensifiera ses raids aériens en Syrie.
La France qui poursuit ses raids en Irak et en Syrie. Notre objectif est d'affaiblir Daesh, acronyme du groupe État islamique en arabe, en vue de le détruire définitivement, a déclaré le chef d'état-major des armées du large de la Syrie. Les chasseurs-bombardiers Rafale basés sur le porte-avions Charles de Gaulle ont frappé plusieurs infrastructures, dont un centre de commandement, une zone de stockage de véhicules et des ateliers de maintenance. C'est ce qu'a annoncé le ministère français de la Défense.
Bruxelles reste mardi en état d'alerte maximale après l'inculpation d'un 4e suspect lié aux attentats de Paris. 10 jours après les attentats qui ont fait 130 morts dans la capitale française, l'AFP indique qu'un objet qui s'apparente à une ceinture d'explosifs a été retrouvé dans une poubelle à Montrouge, près de Paris, près d'un endroit où l'un des principaux suspects, Salah Abdeslam, avait été localisé grâce à la téléphonie. Ce Français de 26 ans vivant en Belgique reste introuvable, mais l'enquête de la police belge a débouché déboucher sur une quatrième inculpation liée aux attentats de Paris et sur de nouvelles interpellations.
Et c'est dans ce contexte que les États-Unis ont lancé lundi une alerte mondiale sur les risques de voyager pour leurs ressortissants partout sur le globe en raison d'une hausse des menaces terroristes. Alors que des millions d'Américains prévoient de voyager pour la Thanksgiving, le département d'État indique que le groupe État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram et d'autres groupes terroristes continuent de planifier des attaques terroristes dans plusieurs régions du monde. Le FBI maintient toutefois qu'il n'y a pas de menace terroriste crédible spécifique aux États-Unis.
Les dirigeants de l'Union européenne et de la Turquie se réuniront en sommet dimanche à Bruxelles pour redynamiser leurs relations et freiner le flux migratoire en pleine crise des réfugiés, a annoncé lundi le président du Conseil européen, Donald Tusk, sur son compte Twitter. L'ONU a affirmé une nouvelle fois lundi qu'il ne fallait pas faire de discrimination à l'encontre des réfugiés syriens et a critiqué l'accent mis par certains responsables politiques américains et européens sur ce sujet.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
À l'horizon de la réunion semestrielle de l'OPEP, l'organisation des pays du pétrole, qui doit se tenir le 4 décembre prochain, l'Arabie Saoudite s'est portée volontaire pour aider à stabiliser le cours des prix du pétrole, offrant de coopérer avec les autres producteurs, y compris ceux hors du cartel. Les cours du pétrole sont à leur plus bas niveau depuis 6 ans et demi. Un dessin d'Hergé pour Tintin au Congo a atteint 770 600 euros samedi lors d'une vente à la galerie Arcurial à Paris. Réalisé en 1937 et estimé à 300 500 000 euros, le dessin a été réalisé au crayon et à la gouache. Les œuvres d'Hergé, très recherchées dans leur version originale, ont rapporté au total 1 100 000 euros. En Afrique du Sud, la fin de l'année est à l'austérité. Le Trésor sud-africain affiche sa volonté de réduire les dépenses inutiles dans les ministères et les organismes publics. Les mesures s'appliquées depuis 2013 auraient permis d'économiser 135 millions d'euros entre 2014 et 2015, soit 8% de dépenses en moins pour les consultants, la restauration et les voyages. Enfin, à Madagascar, l'État va continuer à renflouer les caisses de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar en attendant de trouver des partenaires stratégiques et un plan de redressement de la société qui devrait être soumis sous peu au gouvernement.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie. Place au sport avec John Lyndon. Parlons dopage avec la Russie. Il y a une rencontre entre l'AMA et le ministre des Sports cette semaine.
Le ministre russe des Sports, Vital Gomukhtar, rencontrera cette semaine à Francfort les représentants de l'Agence mondiale antidopage AMA pour établir une feuille de route en vue d'une levée de la suspension de la Russie en athlétisme prononcée le 13 novembre par l'IAAF. Pour dopage organisé, a-t-il annoncé lundi. L'AMA a publié la semaine dernière un rapport sur le dopage dans l'athlétisme russe, rédigé par son ancien président Dick Pont, qui met en lumière le fait que la RUSADA avait aidé à dissimuler des cas positifs impliquant des athlètes russes. Elle a dans la foulée déclaré la RUSADA non conforme. La semaine précédente, l'IAAF avait suspendu la Russie de toute compétition. Les autorités russes restent toutefois confiantes quant à la participation des athlètes russes au JO de 2016 à Rio.
Le suspense prendra bientôt fin pour Sepp Blatter et Michel Platini. Un verdict est attendu en décembre.
Eh bien, le verdict déjà suspendu provisoirement jusqu'au 5 janvier est attendu en décembre, a indiqué lundi la justice interne de la FIFA. Il est reproché à Platini un paiement suspect de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la part de Blatter pour un travail de conseiller achevé en 2002. Blatter est également inquiété pour un contrat de droit TV présumé déloyal envers la FIFA.
Basket nord-américain, les résultats de la NBA, New York Knicks, Miami Heat, 78-95, Thunder Jazz, 111-89, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, 88-109, Suns Spurs, 84-96, Philadelphia Minnesota, 95-100, Sacramento Charlotte Hornets, 127-122. Voilà pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Première escale, le Mali, où les drapeaux sont en berne. Un deuil national de 3 jours est en cours depuis hier en l'honneur des victimes de l'attaque terroriste qui s'est produite vendredi dernier à l'hôtel Radisson Blue de Bamako. Plusieurs pays de la région observent aussi ce deuil. À Bamako, la mesure n'est toutefois pas toujours bien comprise. Certains s'attendaient à ce que ces jours soient fériés. Correspondance de Kassim Traoré.
Le deuil national a été décrété par le gouvernement malien. C'est une disposition de la Constitution. Dans un premier temps, il ne peut pas dépasser 3 jours. Le deuil est décrété lors des circonstances exceptionnelles. Colonel Dingare Touré, grand officier des ordres nationaux du Mali.
Par exemple, lors du décès de citoyens unanimement connus et reconnus par les populations, les personnes ayant accompli des actes reconnus comme héroïques. On peut dire que les victimes, également il y a les victimes d'actes de barbarie, ou les personnes ayant été victime de catastrophes entraînant le décès de plusieurs personnes. Faits divers exceptionnels de par leur nature ou leurs conséquences.
En ces premiers jours de deuil, les drapeaux étaient en berne partout à Bamako. Dans certains services, des minutes de silence ont été observées. Fousseinou Koulibaly, technicien en informatique.
Il y a beaucoup de choses où, en réalité, les gens n'ont pas compris le deuil national. Parce que beaucoup de gens pensent que le deuil national, c'est comme les jours fériés. Donc les gens ne travaillent pas et puis toutes les activités ont été arrêtées. Alors, en réalité, c'est pas ça.
À la radio et télévision nationale du Mali, les émissions ont connu un peu de changements. Il n'y avait pas de musique. Les horaires d'information sont restés inchangés. Malik Traoré, fonctionnaire.
Que nous tous soyons d'accord avec l'autorité malienne de faire le deuil national, de reconnaître que ce qui s'est passé, ça nous a tous frappés. Pour moi, le deuil national doit être un jour de sommet parce que ce n'est pas l'autorité seulement qui sont en deuil, c'est tout le monde.
Dans les écoles et commissariats de police, le deuil en ces premiers jours a été bien observé. Le deuil national a des exigences qui s'appliquent à tout le monde. Colonel Dingare Touré, grand officier des ordres nationaux du Mali.
Les manifestations à caractère de fête sont déconseillées. Des prières sont organisées au niveau des lieux de culte, c'est-à-dire les mosquées, les églises. Le deuil national, en fait, sert avant tout à ce que la population du pays en deuil puisse se recueillir, marquer son soutien aux familles et montrer une solidarité générale du pays face à l'épreuve que celui-ci doit traverser.
Le deuil national ne veut pas dire automatiquement journée chômée. Si tel était le cas, un acte de gouvernement est pris dans ce sens. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus du deuil national de 3 jours, décrété suite à l'attaque terroriste du 20 novembre à l'hôtel Radisson Blue de Bamako, le gouvernement malien a instauré un état d'urgence de 10 jours sur toute l'étendue du territoire. Maître Amadou Thié-Oulé Diarra, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de droit privé de l'université de Bamako, explique au micro de Modibo Dembélé la portée de cette mesure d'exception.
L'état d'urgence, c'est une situation d'exception dans laquelle le chef de l'exécutif, en conseil des ministres, autorise l'application de certaines règles exceptionnelles par les autorités civiles et qui n'auraient dû pas être en fait exercées par ces autorités en temps normal.
Certains se plaignent que malgré l'état d'urgence, ils assistent à l'organisation des manifestations récréatives ou des regroupements. Qu'est-ce que l'État peut faire ou bien la société civile?
Il y a aussi ce qu'on appelle le caractère d'une société, d'une communauté. L'état d'urgence convient dans le cadre d'une communauté qui comprend en fait les règles qui les gouvernent. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là. Nous sommes une communauté en fait qui prend beaucoup de liberté sur elle-même par rapport à des questions de survie comme actuellement les menaces qui pèsent sur les institutions et sur l'ordre public. Par conséquent, les autorités ne peuvent pas en fait faire autrement que de s'en remettre à la sagesse des populations. Parce que la question de la survie ne dépend pas que de l'État. La question de la survie d'une communauté dépend eh bien de l'État et de la compréhension de cette communauté elle-même. Donc, il faudrait que nous cessions d'être laxistes par rapport à les questions de vie qui nous menacent.
Quelle autre alternative l'État malien pourrait-elle mettre en application afin de pouvoir concilier avec les mœurs et les coutumes?
Et y a déjà ce qu'on appelle une sensibilisation. Vous savez que les instruments de la République n'ont pas jusqu'à présent pénétré les larges marches qui se trouvent au Mali. Nous devons à présent continuer la sensibilisation de ces mesures-là, de les expliquer aux populations en français et dans toutes les langues vernaculaires de ce pays. C'est à ce prix que nous parviendrons à faire accepter qu'il y a effectivement une menace terroriste qui pèse sur les populations, et cette menace terroriste ne connaît ni pauvre, ni riche, ni lieu populaire.
Quel pourrait être le rôle de la coopération régionale et sous-régionale dans la lutte contre le terrorisme?
Il y a la coordination entre les différents services de police et de sécurité. Le Nigeria ne peut pas lutter seul contre Boko Haram sans coordination avec les pays comme le Niger, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Tout comme nous, il nous est difficile aujourd'hui de lutter contre le phénomène du terrorisme sans rapport avec l'Algérie, la Mauritanie. Nécessité aujourd'hui que les chefs d'État ont senti et ils vont bientôt, semble-t-il, se réunir sur la question.
Professeur Amadou Tioulé Diarra de la faculté de droit privé à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Belgique, la police fédérale a lancé dimanche des opérations antiterroristes sans donner davantage de précisions sur les actions qu'elle mettra en place. Cependant, elle avait insisté sur la nécessité pour les médias et les internautes de s'abstenir de divulguer tout renseignement sur les opérations policières. Le professeur Marie-Soleil Frère, spécialiste belge des médias, nous explique les raisons de cette coopération spontanée. Une interview réalisée par Dili Dico.
Dimanche soir, au moment où la police menait une série d'opérations dans différents quartiers de Bruxelles, il a été demandé formellement aux médias et aux internautes de ne pas diffuser de l'information par rapport à ces opérations qui étaient en cours. Et je pense qu'en fait, les médias et les internautes ont respecté cette injonction parce que, au moment des attentats contre Charlie Hebdo, il y avait eu plusieurs incidents où les médias avaient été vus comme entravant le travail de la police et même mettant en danger certains des otages qui étaient retenus entre autres dans l'hypercachère à Paris. Suite à ça, il y a eu pas mal de critiques envers la manière de travailler des médias et le fait de cette chasse aux scoops et de cette chasse parfois aux témoignages ou aux photos spectaculaires qui peuvent entraver le travail de la police sur des terrains particulièrement délicats. Il y a plusieurs médias qui ont dû faire leur mea culpa, de sorte que face aux événements qu'on est en train de vivre pour le moment, les médias ont choisi d'être le plus responsable possible.
Comment expliquer que tous aient joué le jeu en agissant conformément aux demandes de la police?
Nous, on vit depuis vendredi soir dans une situation de tension où on fait comprendre à chaque citoyen que la sécurité, c'est effectivement la responsabilité de l'État, des forces de police, mais c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous. Au-delà de la responsabilité des journalistes qui expliquent qu'ils aient obéi à cette injonction, parce que finalement, il n'y avait pas énormément d'avantages au fait de divulguer des détails sur les opérations en cours qui, de toute façon, n'auraient rien appris au public. Et du côté des internautes, que chacun est conscient du fait que son propre comportement individuel peut avoir une influence sur l'évolution de ce genre de situation. Chaque citoyen s'est senti responsabilisé. Les internautes aussi ont senti que ce n'était pas le moment de diffuser des photos ou du matériel qui pouvait être collecté sur place et qui pouvait gêner les opérations de police ou divulguer des choses sur les opérations qui étaient en cours.
Quelle est la situation actuelle en Belgique?
Ce soir, donc à 19h, le Premier ministre a annoncé que l'alerte était maintenue à un niveau 4 pour Bruxelles et puis un niveau 3 pour le reste de la Belgique. La menace est possible et même imminente. Les écoles resteront fermées mardi. Le métro restera aussi fermé mardi. Mais le Premier ministre a annoncé que la vie normale reprendrait à partir de mercredi.
Professeur Marie-Soleil Frère, spécialiste belge des médias. Et nous partons maintenant en Mauritanie, où la commercialisation du riz local rencontre des difficultés. Les explications de Brahim Dia, notre correspondant sur place.
Le riz mauritanien, exploité en irrigué, est essentiellement produit au bord du fleuve Sénégal. Pour la campagne agricole 2013-2014, la production a atteint 293 000 tonnes de paddy, soit environ 80% des besoins nationaux. Cette production reste cependant peu commercialisée et n'est guère compétitive face au riz importé des pays d'Asie, Quelles sont les raisons de cette faible commercialisation? Abdallahi Oulbaba est directeur des politiques, des statistiques, du suivi et évaluation et de la coopération au ministère de l'Agriculture.
La production n'a pas évolué avec la transformation. La transformation est restée un peu derrière la production. C'est ce qui fait que la qualité de la transformation, les infrastructures de stockage, de traitement de la production n'ont pas accompagné l'évolution des superficies et de la production. Nous produisons beaucoup de paddy. Nous avons vu naître un embryon d'industrie de transformation qui a prouvé la qualité de notre riz et nous voulons justement développer cet embryon pour qu'il soit en mesure, du point de vue proportionnel, d'accompagner cette production.
La compétitivité du riz mauritanien souffre aussi des coûts de production élevés par rapport au riz importé. Moulaye Oulmoulaye Oumar est président de l'Association des ingénieurs agronomes mauritaniens.
Le riz thaïlandais bénéficie déjà depuis beaucoup de décennies d'années d'un appui de l'État thaïlandais important, mais aussi de la pluviométrie permanente en Thaïlande, des conditions climatiques qui font que le riz est à 80% et est pluvial. Donc ça joue beaucoup, un rôle important, car le coût de l'énergie au niveau de notre production d'un hectare, elle avoisine vers les 80 000 guias à l'hectare. Ça, c'est très important dans la compétitivité.
En plus du riz importé des pays d'Asie, le voisin du Sénégal également écoule de manière informelle une partie de sa production en Mauritanie. Moulaye Oulmoulaye Oumar.
Le Sénégal utilise beaucoup de main-d'œuvre familiale pour la récolte, ce qui joue aussi sur le coût de production, sur la récolte et sur les semis. La production sénégalaise est une production familiale. Or, chez nous, à Rosso, la production à 80% est une production privée. Donc, ça demande beaucoup de main-d'œuvre.
Dans certains périmètres, la culture du riz est encore au niveau familial. C'est le cas du casier pilote de Bogué, situé à environ 300 km au sud de Nouakchott, au bord du fleuve. Ndiaye Daouda est le président du conseil d'administration de ce casier pilote.
Le CPB a minimum plus de 8000 foyers qui sont autour du casier pilote de Bogué. D'une agriculture de subsistance, d'une parcelle, on aurait souhaité qu'il y ait un remembrement, minimum qu'il y ait 2 à 3 hectares par famille pour que ça soit une agriculture de développement.
Brahim Dia à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Et nous terminons ce matin sur un sujet santé. La 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale pour la santé pour l'Afrique et s'est ouverte hier à N'Djamena au Tchad. Les ministres de la santé publique de 47 pays membres de cet organe directeur de l'OMS pour la région Afrique prennent part à cette rencontre. Reportage d'André Kodmajingar.
Cette session de N'Djamena vise non seulement à discuter du rapport du directeur régional sur les activités de l'OMS dans la zone Afrique en matière de santé 2014-2015, mais aussi d'aborder la question sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a atteint plus de 27 000 personnes en Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique centrale avec 11 000 décès. Docteur Machidiso Moueti fait l'état des lieux.
Nous avons quasiment réussi à enrayer l'épidémie de maladie à virus Ebola qui est apparu en Afrique de l'Ouest à la fin de l'année 2013. Le Liberia et la Sierra Leone ont été déclarés exempts de la transmission d'Ebola en septembre et novembre 2015 respectivement. La Guinée a déjà enclenché le compte à rebours de 42 jours. Sont notifiés les moindres cas d'infection par Ebola.
La présidente sortante de cette organisation sous-régionale, la sénégalaise professeure Hawa Marie Cheikh, qui passera le témoin à son collègue tchadien Hassan Guédoum, ministre d'État à la santé publique, demande à ses collègues de rester solidaires et mobilisés afin de relever les nombreux défis de l'heure. Selon elle, ces défis sont entre autres les déterminants économiques de la santé, la mortalité maternelle et infanto-juvénile et la faiblesse du système de santé mondial. Cet appel de solidarité a été réitéré par le premier ministre tchadien
À l'instar de la plupart des organisations internationales, l'Organisation mondiale de la santé est frappée de plein fouet par la crise financière que vit le monde. Cette situation, qui risque d'exacerber les égoïsmes des donateurs, doit déterminer tous les pays membres de notre regroupement régional à honorer leurs obligations vis-à-vis de notre organisation commune et à faire montre de plus des solidarités agissantes pour apporter des réponses adaptées aux nombreux défis sanitaires auxquels nos pays sont confrontés.
Les délégués à cette session de N'Djamena vont se pencher également sur des orientations régionales pour la mise en place du budget programme de l'OMS 2016-2017 et le programme de transformation du secrétariat de l'OMS dans la région Afrique pour 2015-2020. André Kodmajingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Morgane Guiriec à la présentation, accompagnée d'Anne Albertson à la mise en onde. Excellente journée à tous.